les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Non, même avec le temps, on ne peut pas dire que la plume n'a qu'à écrire. Les premiers livres de Claude Simon faisaient allusion à l'ensemble de sa vie, les seconds aux souvenirs de guerre, les derniers aux souvenirs de l'enfance et de la famille. Mais ensuite, et enfin, Francine Mallet, productrice de la série, avait l'impression que Claude Simon mêlait tout désormais. Tout se mêle dans le présent dans lequel nous écrivons. C'était en 1971. Claude Simon était l'invité de l'émission Écrivain du XXe siècle. Voici le troisième et dernier volet de cette série. Texte lu par Michel Bouquet.
Je me souviens, Claude Simon, qu'à propos du vent, Laloux avait écrit, approximativement, qu'il semblait, dans cette œuvre, que pour vous, Montès traversait le roman comme une sorte de saint ridicule dont toutes les intentions seraient bafouées.
Oui, on pourrait dire, oui.
N'est-ce pas ? Et il se serait aperçu qu'à vouloir lutter contre l'ordre établi, on ne réussissait à rien qu'à créer un peu de désordre qui est un mal plus grave que l'ordre.
Ah ben non, là, il a un peu forcé ma pensée, si j'ose dire, puisque en tête du vent, j'avais mis en exergue la phrase de Valéry, « Deux dangers menacent sans cesse le monde, l'ordre et le désordre. Je ne penche pas pour l'un ou pour l'autre. »
Oui. Dans l'herbe, il semblerait que vous donniez une réponse à ce qu'il vient de dire. En écrivant, la seule attitude digne face au destin, c'est sans doute celle de la vieille fille de l'herbe qui s'applique à mourir comme elle s'est appliquée à vivre. C'est-à-dire seule et sans exigence. Est-ce que vous...
Oui, c'est ça. Et là, vous me posez des tas de questions sur ce que j'appellerais peut-être un peu des scories de la littérature. Et je, puisque vous m'avez suivi, que vous lisez les livres que j'écris maintenant, vous apercevez que je m'efforce et je me suis efforcé de d'éliminer de plus en plus ce genre de réflexion extra-littéraire que l'on pourrait rapprocher de ce qu'on appelle les mots d'auteur au théâtre. Et je pense que c'est pas ça la littérature, c'est autre chose qu'on doit s'efforcer d'éliminer tout ça.
Simon, il y a dans votre œuvre quelque chose qui m'a semblé assez caractéristique. Les premiers livres font allusion à l'ensemble de votre vie. Les seconds, aux souvenirs de guerre et aux souvenirs récents. Les troisièmes, enfin les derniers, aux souvenirs de l'enfance et de la famille, comme histoire par exemple.
Oui.
Et enfin, on a l'impression que vous mêlez tout. C'est un peu simpliste comme présentation, mais à vous relire, j'ai eu cette impression.
Eh bien, tout se mêle dans ce présent dans lequel nous écrivons, dans notre mémoire affective, si vous voulez. Il n'y a pas les événements chocs, les événements qui restent, qui sont sélectionnés par la mémoire. Eh bien, il n'y en a pas de loin et de près. On peut se rappeler avec beaucoup plus, on peut avoir présent à la mémoire, avec présent, je dis bien toujours à la mémoire, et par conséquent à l'écriture, avec beaucoup plus d'intensité un souvenir de son enfance, par exemple, qu'un souvenir d'un épisode qui s'est passé la veille et qui n'avait pas d'intérêt.
J'aimerais que nous passions en revue certains des thèmes qui sont apparus dans votre œuvre plus souvent.
Oui, 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 d'accord.
Il y a le thème qui m'intéresse particulièrement, moi, c'est le thème du temps. Cette espèce d'accélération du temps, n'est-ce pas, que l'on trouve aussi bien dans Le Tricheur, dans La Route des Flandres, même dans La Corde Raide.
Oui, ben nous la ressentons tous. Le temps va tantôt lentement, tantôt vite. Il n'est pas débité en tranches égales comme le temps des horloges. Et le temps, comment l'appeler ? C'est le temps. Je voudrais pas l'appeler, c'est le temps humain, mais il est encore remplacé dans la littérature par le temps littéraire ou le temps scriptural, si vous voulez. Par exemple, même dans les romans traditionnels qui affectent de suivre pas à pas la suite des événements dans leur ordre chronologique, bien, même dans ces romans-là, qui se veulent naturalistes, qui se veulent copier, entre guillemets, la vie, entre guillemets aussi, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des accélérations brutales et des décélérations, n'est-ce pas, même dans ces sortes de romans naturalistes.
Enfin, avant de les étudier chacun, on pourrait faire remarquer que ces thèmes, vous les traitez dans plusieurs livres. Par exemple, le thème du colonialisme apparaît surtout dans Le Palace, dans Orion aveugle, dans Les corps conducteurs.
Je le traite pas, le thème.
Jamais.
Franchement, non, c'est... Non, je le traite pas. D'ailleurs, je traite pas des thèmes. Il se trouve, dans mon œuvre, des thèmes qui sont des choses qu'on ne peut pas ignorer dans la vie d'un homme actuel. Il y a la guerre, il y a la révolution, il y a la vie moderne, si vous voulez, ou la vie dans un monde moderne. Mais je ne traite pas ces thèmes. Un philosophe traite ces thèmes. Un sociologue peut traiter ces thèmes, pas un romancier.
Oui, vous les faites vivre.
Ils reviennent, ils sont un support, si vous voulez, mais c'est tout.
Et pour ne pas, sans vouloir faire de jeu de mots idiots, et pour employer le mot thème tout de même dans un autre sens, le thème du latin est de ce qui... se répète toujours, apparaît dans La Corde Raide, dans La Route des Flandres, dans La Bataille de Pharsale, dans l'histoire. Quand je parle de thème du latin et de ce qui se répète toujours, c'est ces phrases que vous citez dans vos livres en disant combien des versions vous ont fait comprendre que la guerre avait toujours été la guerre, qu'elle soit en cuirasse dans l'Antiquité ou sur le dos d'un cheval sur la route
ça,
des Flandres, etc.
Ça, je l'ai plutôt compris en faisant la guerre qu'en faisant des versions. C'est plutôt là que j'ai eu la sensation que c'était toujours pareil. Je me rappelle, prisonnier, quand nous étions conduits là, sur ces routes de Belgique, crevant de faim, je me disais, ben, je ne sais pas, les prisonniers amenés à Babylone, ça devait être à peu près la même chose, ça devait être le même tableau, une horde de gens dépenaillés.
Quand on vit soi-même
oui,
à peu près la même chose.
J'ai l'impression d'être au contact, là, de ce que j'appelle, peut-être bêtement, des invariants sociaux, si vous voulez.
La défaite et ses conséquences qui a marqué votre génération, et même si on réfléchit aux invariants, parce qu'il y a eu d'autres défaites dans le monde, apparaît aussi dans tous vos livres.
Oui, c'est fort possible, c'est probable même.
Par exemple, dans La Corde Raide, dès le début... Vous dites, j'avais la sensation de voir quelque chose de très typique et qui, si l'on faisait abstraction de la forme moderne, avion, tank, devait ressembler point par point, feu et sang, cohorte, invasion, dans le fracas du temps et de l'espace s'écroulant, à ce qui se déroulait il y a 200, 2000 ou 10 000 ans.
Ben c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Oui.
Et on retrouve une... phrase semblable évoquée dans La Route des Flandres, la mort qui guette le héros courant sur le ballast, on la retrouve dans La Bataille de Pharsale, est longuement évoquée. Il y a aussi l'épisode des quatre cavaliers en retraite, dont un sérieusement blessé, qui doivent se presser pour passer un pont avant qu'il ne saute. Cet épisode des blessés, j'ai cherché à voir comment votre mémoire ou comment votre art d'écriture l'enrichissait à mesure que vous avanciez dans les livres.
Oui.
Et ça a été, pour me prouver ce que vous avez dit, c'est que le premier n'était qu'un souvenir à l'état brut et que les autres donnent l'impression de naître en même temps que vous les écrivez. D'abord, Je vais donner cette phrase qui explique le titre de la corde raide. Vous essayez tant bien que mal de continuer sur cette sacrée corde raide, manquant de vous casser la gueule à chaque pas, et ces types vous expliquent qu'il n'y a en réalité aucun danger ni aucune difficulté si vous connaissez les lois de l'équilibre. Et l'on reste en équilibre, dans une attitude gracieuse et virile, les yeux vers le ciel des réalités objectives et le petit doigt sur la couture du pantalon.
Oui, ben ça, on pourrait... Je dirais que c'est typiquement une genre d'écriture et de choses que j'aborde et que je renie complètement.
Oui, que vous reniez l'écriture de cette phrase, je le conçois bien, moi qui ai lu vos derniers livres. Mais vous dites que vivre, c'est vivre sur une corde raide et qu'il faut à la fois obéir à une certaine forme d'éducation, à une certaine tradition qu'on vous enseigne et... regardez les réalités objectives d'autre part, ce qui vous semble absolument impossible.
Oui, regardez les réalités objectives. Je me demande qui peut les voir la vie, la réalité d'une façon objective. Dieu s'il existe, mais sûrement pas.
Bon, alors à ce moment-là, vous l'espériez et vous y avez renoncé complètement.
Je ne sais pas ce que. Oui, je ne sais pas si je l'espérais. Vous savez, j'ai écrit à Corderelle, j'étais jeune. Quand on est jeune, on n'est pas très rassuré, on n'est pas très assuré. Alors. On éprouve le besoin d'affirmer comme ça, d'une façon même insolente et un peu agressive.
Mais je crois que cette phrase de la corde raide, que, je le rappelle, vous avez écrite dès 47, n'est-ce pas ?
Oui.
Est-ce qu'elle dit ce qui est resté votre éthique ?
Non, du tout. Je n'ai pas d'éthique, d'ailleurs. Bon. Je n'ai qu'une seule éthique, c'est celle d'écrire.
Alors... je pense que la pure malhonnêteté est le pire mépris à l'égard des autres, pour celui qui écrit, ou qui peint, ou qui parle, consiste à peindre, à écrire ou à parler en fonction d'un public et non en fonction de ce qu'il a à dire.
Oui, ça, alors je le pense toujours, oui.
Ça, vous ne le reniez
pas.
Ça,
je ne le renie pas du tout, je le pense toujours. Et je ne dirais plus en fonction de ce qu'il a à dire, mais en fonction de l'objet qu'il fabrique ou de la conception de l'écriture qu'il a ou de l'œuvre qu'il a.
Et vous ne diriez pas non plus ce mot de la phrase suivante, le devoir. Vous n'emploieriez peut-être plus le mot le devoir, mais vous donneriez probablement le même sens à une phrase. Cette phrase, c'est le devoir consiste à donner la pleine mesure de soi-même.
Oui, oui, mais le devoir, c'est un mot majuscule qui me fait peur. Ça s'emploie encore quand on est dans les 20 ans. Ensuite, on y pense peut-être, mais on réfléchit un peu plus avant de le définir.
Ben c'est dans la corde raide aussi que vous avez
oui, mais une nous première en sommes loin. Pourquoi nous, comme je vous l'ai dit, pourquoi nous étendre sur un livre?
Parce que c'est une comme une racine qu'on voit mieux.
Tellement loin. Non, je ne pense pas. Que vous
non.
Dites, non, je ne pense pas qu'on voit mieux. Les premiers tableaux de Cézanne sont des choses effroyables. Ce sont des barbouillages. Et les premiers tableaux de Van Gogh, en dépit d'un certain courant maintenant qui se met à dire que les mangeurs de pommes de terre c'est aussi beau que les. Que les tableaux d'Arles, je ne crois pas que dans les balbutiements de quelqu'un qui ne sait pas du tout ou presque pas écrire, on voit mieux dans des barbouillages ou des gribouillis ce qu'un homme deviendra plus tard. Ça, je ne le pense pas vraiment.
Néanmoins, bien que vous considériez la corde raide comme barbouillage, gribouillis, je vais demander à Michel Bouquet de lire un passage de la corde raide et je vais vous demander de présenter ce passage.
C'était des souvenirs. Je ne me rendais pas très bien compte encore à ce moment-là qu'on n'écrit jamais quelque chose ou on ne décrit jamais quelque chose qui s'est passé avant l'acte d'écrire, mais que ce qu'on écrit, c'est ce qui se passe au présent de l'écriture. Je n'avais pas encore très bien compris ça à ce moment-là. Et alors, peut-être ce qu'on pourrait en dire, ce qu'il y a de plus intéressant, me semble-t-il, là-dedans, c'est cette première phrase, disant, je me rappelle avec précision ces choses, Du moins, celle que j'ai pu enregistrer à l'aide de cette conscience partielle et fragmentaire que l'on a dans ces moments-là. Alors, je crois que je pourrais toujours reprendre cette phrase en supprimant « que l'on a dans ces moments-là » parce que nous avons toujours une conscience très partielle et très fragmentaire, non seulement quand on fait la guerre, mais dans la vie de tous les jours.
Je me rappelle avec précision ces choses, du moins celles que je pus enregistrer à l'aide de cette conscience partielle et fragmentaire que l'on a dans ces moments-là, un peu comme si on portait des œillères. Par exemple, avant, le soleil brillait encore, mais un nuage avait dû le masquer, et maintenant la lumière était grise. Si l'on peut appeler « pensée » la série de sensations ou d'images qui me traversèrent alors la tête, je peux dire que, pas une fois, je ne pensais avec crainte à la mort, en dehors de cette impression toute physique de la perméabilité de mon dos, mais qu'au contraire, ce fut comme une bouffée, un parfum de regret qui prit toute la place disponible et m'envahit entièrement. La vie que j'allais perdre, infiniment adorable, soudain infiniment familière et douce, la vie à laquelle déjà je n'appartenais plus se personnifia d'abord dans une foule impersonnelle, les cavaliers de mon escadron. Une tendresse violente et absurde pour tous ces hommes envers lesquels je ne ressentais pourtant qu'une sympathie modérée, le genre de sentiment que l'on peut éprouver pour des compagnons imposés avec lesquels on a partagé quelques mois une vie commune et obligatoire. Ensuite, je regrettais une lampe électrique qui était restée dans une des sacoches de ma selle. Je la revis, rouge et brillante, à l'endroit où je l'avais mise, contre un morceau de jambon. Enfin, tout cela s'effaça devant l'image du rideau de tulle de la fenêtre de ma chambre à Perpignan, gonflé par le vent, s'emplissant de la forme du souffle printanier, envahissant la pièce et retombant, s'affaissant mollement, pour s'enfler à nouveau, palpitant, aérien et merveilleusement blanc. Je n'ai pas pensé aux êtres que j'aimais véritablement. Peut-être la lampe électrique et le rideau firent-ils office de symbole pour celle qui me l'avait envoyé et celle qui habitait la chambre. En tout cas, ni leur image, ni leur nom ne me vinrent à l'esprit. Probablement appartenaient-elles déjà ou encore à un autre monde, celui que j'allais quitter, que j'avais même quitté et dont j'avais entendu se refermer la porte derrière moi, un volet qui se rabat en claquant. Et leurs souvenirs ne pouvaient-ils plus me parvenir que sous la forme de ces choses inanimées, venant d'elles ou se rattachant à elles, comme ces objets que l'on avait coutume de mettre autrefois dans les sépultures pour accompagner les morts, les nourrir, dans l'univers secret où ils allaient vivre.
Passons à la route des Flandres. Est-ce que ce n'est pas à propos de la route des Flandres que André Billy avait dit qu'il vous donnerait bien le prix Goncourt si vous l'aviez écrit autrement?
Ce qui est assez drôle parce qu'on ne voit pas comment. Alors ça aurait été un autre livre, comme dit Jérôme Lindon, mon éditeur. Alors, en somme, il imaginait un livre qui n'était pas la route des Flandres. Et à ce livre qui n'était pas la route des Flandres, c'était vraiment une définition assez drôle.
Quelque chose à l'intérieur de Georges achevait de se désagréger, secoué par une sorte de terrifiante diarrhée qui le vidait sauvagement de son contenu et de son sang même, et non pas moral, mais pour ainsi dire mental, c'est-à-dire non plus une interrogation, un doute, mais plus aucune matière, interrogation à doute.
Oui. Bah, vous savez, dans une défaite, dans un camp de prisonniers, c'est une position d'esprit assez... courante. Vous savez, j'ai été fait prisonnier moi-même, c'est une impression assez désagréable et assez pénible à supporter.
Et ensuite, oui, c'est pourquoi vous ne l'avez pas supporté.
D'être charrié, oui, je ne l'ai pas supporté, enfin j'ai eu de la chance, j'ai pu m'évader. Mais enfin, là vraiment, passe tout d'un coup dans cette position d'esclave, de troupeau. Je me rappelle, il y avait des rassemblements sur la place du camp en Allemagne. Et nous avions tout à fait l'impression que nous étions rassemblés comme des bétails, là, parce qu'il y avait des entrepreneurs allemands. Puis on prenait quatre types. Ça disait toujours si on ne tâtait pas les biceps ou si on ne regardait pas les dents, n'est-ce pas ? On était séparés de ses camarades, ça ne comptait pas. Alors, c'était, quand on a vécu dans une société plus ou moins policée, c'est une impression assez forte que l'on éprouve à ce moment-là.
Dans La Route des Flandres, pour le thème du temps, je vous ai vu souligner cette espèce d'accélération du temps, d'extraordinaire rapidité avec laquelle la guerre produit des phénomènes, rouille, souillure, corrosion des corps, qui demandent en temps ordinaire des mois, des années pour s'accomplir.
Ah oui, ça c'était... Pour quiconque a fait la guerre, je crois que c'était une chose frappante.
Et même dans La Route des Flandres, ce thème du latin revient. Je lui dirai à mon oncle que j'avais déjà lu en latin ce qui m'est arrivé, ce qui fait que je n'ai pas été trop surpris et même dans une certaine mesure rassuré de savoir que ça avait déjà été écrit, de sorte que tout l'argent qu'il a lui aussi dépensé pour me le faire apprendre n'aura pas été complètement perdu. Ça lui fera sans doute plaisir.
Oui, c'est ça.
Évidemment, cette réflexion ironique est amusante. Il me semble que j'ai déjà lu une histoire comme ça, des types métamorphosés d'un coup de baguette, en cochon, ou en arbre, ou en caillou, le tout par le moyen de vers latin.
Oui.
Cette réflexion que vous vous êtes faite dans le wagon...
Oui, ce qui est intéressant, c'est peut-être que je ne l'avais pas vu par le moyen de vers latin, parce qu'ils n'ont jamais été. Et c'est là où on peut toucher du doigt à quel point l'écrit produit, parce qu'il n'y a jamais eu des gens transformés en cochons ou en choses. Ils ont été par le moyen de vers latin, par le moyen de l'écriture. C'est dans l'écriture qu'ils ont été faits. En dehors de l'écriture, il n'y a jamais eu de type transformé en cochon d'un coup de baguette, n'est-ce pas ? C'est l'écriture qui instaure toutes ces métamorphoses ou toutes ces choses, n'est-ce pas ? Les produits dans la réalité, entre guillemets, ne se produisent jamais.
Michel Bouquet va lire quelques pages de La Route des Flandres, de Claude Simon.
Mais il n'y avait pas de tribune, pas de public élégant pour le regarder. Je pouvais toujours les voir devant nous, se silhouettant en sombre. Forme donquichotesque, décharnée par la lumière qui mordait, corrodait les contours. Indélébiles, sur le fond de soleil aveuglant, leurs ombres noires tantôt glissant à côté d'eux sur la route, comme leurs doubles fidèles, tantôt raccourcis, tassés, ou plutôt télescopés, naines et difformes, tantôt étirées, échassières et distendues, répétant en raccourci et symétriquement les mouvements de leurs doubles verticaux auxquels elles semblent réunies par des liens invisibles. Quatre points, les quatre sabots, se détachant et se rejoignant alternativement. Exactement à la façon d'une goutte d'eau qui se détache d'un toit, ou plutôt se scinde, une partie d'elle-même restant accrochée au rebord de la gouttière, le phénomène se décomposant de la façon suivante, la goutte s'étirant en poire sous son propre poids, se déformant, puis s'étranglant, la partie inférieure, la plus grosse, se séparant, tombant, tandis que la partie supérieure semble remonter, se rétracter, comme aspirée vers le haut, aussitôt après la rupture, puis il se regonfle aussitôt par un nouvel apport, de sorte qu'un instant après, il semble que ce soit la même goutte qui pende, s'enfle de nouveau, toujours à la même place, et cela sans fin, comme une balle cristalline animée au bout d'un élastique d'un mouvement de va-et-vient. Et de même, la patte et l'ombre de la patte, se séparant et se ressoudant, ramenées sans fin l'une vers l'autre, l'ombre se rétractant sur elle-même, comme le bras d'un poulpe, tandis que le sabot se soulève. La patte décrivant une courbe naturelle, arrondie, cependant que sous elle, et légèrement en arrière, recule seulement un peu, compressée, la tache noire qui revient ensuite se recoller au sabot. Et en raison de la pente oblique des rayons, la vitesse à laquelle l'ombre revient, pour ainsi dire toucher but, allant croissant, de sorte que, partant lentement, elle semble à la fin se précipiter comme une flèche, aspirée sur le point de contact, de jonction. Comme par un phénomène d'osmose, le double mouvement multiplié par 4, les 4 sabots et les 4 ombres télescopées se disjoignant et se rejoignant dans une sorte de va-et-vient immobile, de piétinement monotone, tandis que, sous elles, défilent bas côtés poussiéreux, pavés ou herbes, comme une tache d'encre aux multiples bavures se dénouant et se renouant, glissant sans laisser de traces sur les décombres, les morts, l'espèce de traînée, de souillure, de sillage d'épaves que laisse derrière elle la guerre. Et ce dut être par là que je le vis pour la première fois. Un peu avant ou après l'endroit où nous nous sommes arrêtés pour boire, le découvrant, le fixant à travers cette sorte de demi-sommeil, cette sorte de vase marron dans laquelle j'étais pour ainsi dire englué, et peut-être parce que nous dûmes faire un détour pour l'éviter, et plutôt le devinant que le voyant. C'est-à-dire, comme tout ce qui jalonnait le bord de la route, les camions, les voitures, les valises, les cadavres, quelque chose d'insolite, d'irréel, d'hybride, en ce sens que ce qui avait été un cheval, c'est-à-dire ce qu'on savait, ce qu'on pouvait reconnaître, identifier comme ayant été un cheval, n'était plus à présent qu'un vague tas de membres, de cornes, de cuir et de poils collés, aux trois quarts recouverts de boue. Georges se demandant, sans exactement se le demander, c'est-à-dire constatant avec cette sorte d'étonnement paisible, ou plutôt émoussé, usé, et même presque complètement atrophié par ces 10 jours au cours desquels il avait peu à peu cessé de s'étonner, abandonné une fois pour toutes cette position de l'esprit qui consiste à chercher une cause ou une explication logique à ce que l'on voit ou ce qui vous arrive. Donc, ne se demandant pas comment, constatant seulement que, quoiqu'il n'eût pas plu depuis longtemps, du moins à sa connaissance, le cheval, ou plutôt ce qui avait été un cheval, était presque entièrement recouvert, comme si on l'avait trempé dans un bol de café au lait, puis retiré, d'une boue liquide et gris-beige, déjà à moitié absorbée, semblait-il, par la terre, comme si celle-ci avait déjà sournoisement commencé à reprendre possession de ce qui était issu d'elle, n'avait vécu que par sa permission et son intermédiaire, c'est-à-dire l'herbe et l'avoine dont le cheval s'était nourri, et était destiné à y retourner, s'y dissoudre de nouveau. Le recouvrant donc, l'enveloppant, à la façon de ces reptiles qui commencent par enduire leur proie de bave ou de suc gastrique avant de les absorber, de cette boue liquide sécrétée par elle et qui semblait être déjà comme un sceau, une marque distinctive certifiant l'appartenance, avant de l'engloutir lentement et définitivement dans son sein, en faisant sans doute entendre comme un bruit de succion. Pourtant, quoiqu'il semblât avoir été là depuis toujours, comme un de ces animaux ou végétaux fossilisés retournés au règne minéral, avec ses deux pattes de devant repliées dans une posture fœtale d'agenouillement et de prière, à la façon des membres antérieurs d'une mante religieuse, son cou raide, sa tête raide et renversée, dont la mâchoire ouverte laissait voir la tache violette du palais. Il n'y avait pas longtemps qu'il avait été tué, peut-être seulement lors du dernier passage des avions, car le sang était encore frais. Une large tache rouge claire et grumeleuse, brillante comme un vernis, s'étalant sur ou plutôt hors de la croûte de boue et de poils collés, comme s'il sourdait non d'un animal, d'une simple bête abattue, mais d'une inexpiable et sacrilège blessure faite par les hommes, à la façon dont, dans des légendes, l'eau ou le vin jaillissent de la roche ou d'une montagne frappée d'un bâton au flanc argileux de la terre. Georges, le regardant, tandis qu'il faisait machinalement décrire à sa monture un large demi-cercle pour le contourner, le cheval obéissant docilement, sans faire d'écart, ni presser le pas, ni obliger son cavalier à le tenir serré pour le maîtriser, Georges, pensant à l'agitation, l'espèce de mystérieuse frayeur qui s'emparait des chevaux lorsque, partant pour l'exercice, il leur arrivait de longer, au bout du champ de manœuvre, le mur de l'entreprise d'écarissage, et alors les hennissements, les tintements des gourmettes, les jurons des hommes cramponnés aux rênes, pensant, et là-bas c'était seulement l'odeur. Mais maintenant, même la vue d'un de leurs pareils, mort, ne leur fait plus rien. Et sans doute marcherait-il même dessus. Rien que parce que ça leur ferait 3 pas de moins. Pensant encore, et moi aussi d'ailleurs, il le vit lentement pivoter au-dessous de lui, comme s'il avait été posé sur un plateau tournant. D'abord au premier plan, la tête renversée, présentant sa face inférieure, fixe, le cou raide, puis insensiblement les pattes repliées s'interposant, masquant la tête, puis le flanc maintenant au premier plan. La blessure. Puis les membres postérieurs en extension, collés l'un à l'autre, comme si on les avait ligotés, la tête réapparaissant alors, tout là-bas, derrière, dessinée en perspective fuyante, les contours se modifiant d'une façon continue, c'est-à-dire cette espèce de destruction et de reconstruction simultanée des lignes et des volumes, les saillies s'affaissant par degrés, tandis que d'autres reliefs semblent se soulever, se profilent, puis s'affaissent et disparaissent à leur tour. Au fur et à mesure que l'angle de vue se déplace, en même temps que semblait bouger tout autour l'espèce de constellation. Et d'abord, il ne vit que de vagues taches, constituées d'objets de toutes sortes, selon l'angle aussi les distances entre eux diminuant ou s'élargissant, éparpillées en désordre autour du cheval, sans doute le chargement de la charrette qu'il avait traînée. Mais on ne voyait pas de charrette, peut-être les gens s'y étaient-ils attelés eux-mêmes. Et avait-il continué ainsi? Georges se demandant comment la guerre répandait, puis il vit la valise éventrée, laissant échapper comme des tripes, des intestins d'étoffe. Cette invraisemblable quantité de linge, le plus souvent noirs et blancs. Il y en avait pourtant un d'un rose passé projeté sur ou accroché par la haie d'aubépine, comme si on l'avait mis là à sécher. Comme si ce que les gens estimaient le plus précieux, c'était des chiffons, des loques, des draps déchirés ou tordus, dispersés et tirés comme des bandes de la charpie sur la face verdoyante de la terre. Puis il cessa de se demander quoi que ce fût, cessant en même temps de voir, quoiqu'il s'efforçât de garder les yeux ouverts et de se tenir le plus droit possible sur sa selle, tandis que l'espèce de vase sombre dans laquelle il lui semblait se mouvoir s'épaississait encore. Et il fit noir tout à fait. Et tout ce qu'il percevait maintenant, c'était le bruit, le martèlement monotone et multiple des sabots sur la route se répercutant, se multipliant, des centaines, des milliers de sabots à présent, au point, comme le crépitement de la pluie, de s'effacer, se détruire lui-même, engendrant par sa continuité, son uniformité, comme une sorte de silence au deuxième degré, quelque chose de majestueux, monumental, le cheminement même du temps, c'est-à-dire invisible, immatériel, sans commencement ni fin ni repère, et au sein duquel il avait la sensation de se tenir, glacé, raide sur son cheval, lui aussi, invisible dans le noir, parmi les fantômes de cavaliers aux invisibles et hautes silhouettes.
Pour terminer cette troisième émission et la série consacrée à l'œuvre de Claude Simon, il me semble que nous pourrions demander à Michel Bouquet de lire les premières pages, difficiles certes, de la bataille de Pharsale. Voulez-vous, Claude Simon, nous rappeler les circonstances qui vous ont fait commencer ainsi ces premières pages ?
Eh bien, j'étais assis sur ce divan que vous voyez, puis j'avais envie d'écrire, j'avais un vague projet Pharsale, parce que dans Histoire, il y a l'oncle aide son neveu à faire une version de César. Il est question de Pharsale. Et je n'avais pas fini Histoire, je l'ai fini en Grèce, puisque ma femme est grecque, nous l'avons fini là-bas. Et en allant voir ses parents, tout d'un coup, nous allions en voiture. Moi qui suis ignorant comme tout, tout d'un coup, je vois au bord de la route Farsala, n'est-ce pas ? Alors je dis, écoute, je parle de cette bataille, d'une chose. Nous allons regarder un peu. On s'est arrêté, on s'est mis à rechercher le champ de bataille. Et ça m'a donné l'idée d'un bouquin. D'ailleurs, j'avais commencé à écrire quelque chose qui aurait été dans Histoire, puis je me suis aperçu que ça chargeait Histoire d'une façon démesurée. Bon, mais j'étais là avec ces 20 pages, et puis l'idée que j'avais, c'était recherche d'un champ de bataille, recherche d'un livre. Et j'étais assis là, c'était le printemps, je crois, j'ai commencé, sur ce livre, et il y a un pigeon qui est passé, qui a volé, et qui a fait une ombre noire sur ma figure. J'ai dit, voilà, le président de l'écriture, j'ai commencé à écrire ça.
Jaune, et puis noir. Temps d'un battement de paupières. Et puis jaune de nouveau. Ailes déployées, forme d'arbalète rapide entre le soleil et l'œil, ténèbres un instant sur le visage comme un velours, une main un instant. Ténèbres, puis lumière, ou plutôt remémoration. Avertissement. Rappel des ténèbres, jaillissant de bas en haut à une foudroyante rapidité palpable, c'est-à-dire successivement le menton, la bouche, le nez, le front, pouvant les sentir, et même olfactivement leur odeur moisie de caveau, de tombeau, comme une poignée de terre noire. Entendant en même temps le bruit de soie déchirée, l'air froissé, ou peut-être pas entendu, perçu, rien qu'imaginé, oiseau, flèche, fustigeant, fouettant, déjà disparu, l'empennage vibrant, les traits mortels s'entrecroisant, dessinant une voûte chevintante, comme dans ce tableau vu où, combat naval entre Vénitiens et Génois, sur une mer bleue noire crêtelée, épineuse, et d'une galère à l'autre, l'arche empennée bourdonnante dans le ciel obscur, l'un d'eux pénétrant dans sa bouche ouverte, au moment où il s'élançait en avant, l'épée levée entraînant ses soldats, le transperçant, clouant le cri au fond de sa gorge. Obscure colombe auréolée de safran. Sur le vitrail, au contraire, blanches les ailes déployées, suspendues au centre d'un triangle entouré de rayons d'or divergents, âme du juste s'envolant. D'autres fois, un œil au milieu. Dans un triangle équilatéral, les hauteurs, les bisectrices et les médianes se coupent en un même point. Trinité. Et elle, fécondée par le Saint-Esprit, vase d'ivoire, tour de silence, rose de Canaan, machin de Salomon. Ou peint au fond, comme dans la vitrine de ce marchand de faïence, écarquillé. Qui peut bien acheter des trucs pareils ? Vase nocturne pour recueillir. Accroupissement. Devinette, qu'est-ce qui est fendu, ovale, humide et entouré de poils ? Alors, œil pour œil, comme on dit dent pour dent, ou face à face, l'un regardant l'autre, jaillissant dru dans un chevintement liquide comme un cheval, ou plutôt jument. Disparu au-dessus des toits, façon de parler, pas vu disparaître et pas vu réellement les toits, simplement haut par opposition à bas, c'est-à-dire en bas, un néant originel, pas la place, l'asphalte, où deux autres piètent toujours, gris à pâte rose. En haut, un autre néant, entre lesquels il s'est soudain matérialisé, un instant elle déployée, comme l'immobile figuration du concept même d'ascension. Un instant, puis plus rien. Le reflet dans le ventail de la fenêtre à demi fermée, toujours rempli aux deux tiers par l'angle de l'immeuble et à un tiers par du ciel. Les larges mailles du rideau de filet derrière la vitre, plus visibles dans la partie gris sombre que dans la bande remplie par le bleu clair. la forme boursouflée du nuage se faufilant d'un ventail à l'autre, pour ainsi dire en se contorsionnant sur la surface inégale du verre, glissant et disparaissant. L'image reflétée de la façade d'angle, balcon, fenêtre, sinueuse aussi, comme ses reflets dans l'eau, mais immobile. Les mailles du rideau, immobiles aussi.
Et pour le lecteur, quel est le rapport entre le pigeon et le reste ?
Il n'y a pas de rapport entre le pigeon et le reste, pas plus qu'il n'y a de rapport entre, revenons à la peinture, entre les pommes et la table, sinon la façon dont sont peintes les pommes et la façon dont est peinte la table. C'est là, c'est le seul genre de rapport qui existe. C'est la façon dont est écrit le pigeon et dont sont écrites les autres choses qui vont à côté.
Sculpté en ronde bosse. Dans le marbre, une frise de cavaliers au galop court sur le haut d'un mur. Les cavaliers sont vêtus de courtes tuniques. Leurs cuisses nues serrent les flancs nus de leurs montures dont les crinières flottent au vent en courtes flamèches. Les naseaux des chevaux sont dilatés. Des veines saillent sur les chanfreins. Les oreilles sont couchées en arrière. Dans chaque groupe, le front que forment les têtes des chevaux est agité de mouvements tumultueux. Certains redressant leurs coudes, d'autres l'arrondissant, les têtes oscillant d'avant en arrière, se dépassant, s'oblitérant, se confondant, se dépassant de nouveau dans l'ardeur de la course. Ils foulent parfois de leurs pieds les corps d'ennemis gisant à terre. L'un des cavaliers, renversé en arrière, la tête sur la croupe de son cheval, déjà à demi désarçonné, va lui-même bientôt tomber sur le sol et rouler sous les sabots de marbre parmi les pâturons. Les jarrets aux tendons nerveux. Le marbre est d'une couleur gris clair. Les poitrails cabrés des chevaux se gonflent de muscles. L'intérieur des naseaux est injecté de sang. Les pattes rapides, nerveuses, se mêlent et s'entrecroisent à toute vitesse. Haut enfonce ses éperons dans les flancs de son cheval et remonte la colline au galop. Ce versant de la colline est dans l'ombre. Celle-ci, qui commence à s'étirer, indique que l'on approche de la fin d'une de ces journées où le soleil semble tarder à se coucher, comme si, arrivé à un certain point au-dessus de l'horizon, il ralentissait, ne poursuivant plus sa course qu'insensiblement, presque immobilisé. Haut aperçoit trois cavaliers qui sortent au galop de la corne gauche du bois vers lequel ils se dirigeaient. Les cavaliers qui se profilent sur le sommet de la colline se détachent sur le ciel blanc. Ils sont au soleil, et à un moment celui-ci étincelle sur la coquille d'un sabre. Galopant toujours à travers champs, Haut incurve la course de son cheval vers la gauche. Les trajets suivis d'une part par les trois cavaliers et d'autre part par Haut dessinent deux droites convergentes. Mais Haut, ayant mal calculé les vitesses respectives de son cheval, qui continue à gravir la pente, et des autres, qui galopent sur la ligne de crête horizontale, doit incurver de plus en plus sa course, de sorte que celle-ci décrit un arc de cercle, le trajet des cavaliers demeurant rectiligne. Et finalement, c'est à l'intersection d'une courbe et d'une droite que Haut rejoint les trois cavaliers. Quoiqu'il agita un bras depuis un moment, les cavaliers n'ont pas ralenti. Ils sont sur une petite route où le galop du cheval de Haut se fait plus dur que dans les prés. Haut dit « Bande de salauds, vous ne pouviez pas m'attendre ?» Aucun ne répond. L'un des cavaliers a le visage couvert de sang et semble se maintenir avec peine sur sa selle. Haut galope maintenant de conserve avec eux. Les ombres allongées des arbres hachent la route. Les feuillages des arbres passent l'un après l'autre devant le soleil. Haut dit « De quel escadron vous êtes ?» L'un des deux cavaliers indemne le regarde et dit simplement quatrième. Haut dit « Je croyais que le régiment était dans le bois. » Celui des cavaliers indemnes, qui n'a pas encore parlé, dit « Merde, tu parles. Le bois, ça grouille de chelus. » C'est un brigadier. Il a un air furibond. On entend le souffle rauque des chevaux à la cadence du galop. Haut dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Le brigadier dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Montant et descendant sur sa selle au rythme du galop, il regarde Haut, d'un air furieux, sans répondre. Puis il cesse de regarder Haut et dit « Merde alors, qu'est-ce qui s'est passé ?» Pendant un moment, on entend de nouveau que le bruit des sabots sur la route et le souffle de plus en plus rauque des chevaux. Le brigadier se retourne sur sa selle, inspecte la campagne déserte derrière eux, reprend sa position normale et dit « On va les laisser souffler un peu. » Les quatre cavaliers mettent les chevaux au trot. Haut dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Le brigadier dit « Les salauds, ils vont faire sauter les ponts et on va être les couillons. » À part les chocs des sabots sur la route et le souffle des chevaux, on n'entend aucun bruit. La campagne est vide, silencieuse. Le soleil bas semble arrêté. Haut regarde le blessé et dit « Qu'est-ce qu'il a ?» L'autre cavalier dit « C'est pas sa gueule, c'est son genou. » Les prunelles du blessé fixées droit devant lui glissent en coin vers Haut. Dans la croûte de sang qui recouvre le visage, les yeux ont une expression angoissée. Du côté où se tient Haut, le drap kaki de la culotte est percé au genou, un peu au-dessus du houseau, d'un trou ovale, plutôt comme une déchirure, pas très grand, teintée seulement d'un peu de sang. Haut dit « Ça va ?» Sans tourner la tête, le blessé lui jette le même regard angoissé et dit « Ça ira. » Des vaches paissent dans les prés. Les quatre cavaliers, toujours au petit trot, traversent un hameau désert. Dans un verger clôturé par un treillage, il y a une quantité de poules blanches. Un des cavaliers dit « Toutes ces bêtes, merde !» Haut dit « Qui t'a dit que les ponts allaient sauter ?» Personne ne lui répond. Comme ils sont déjà à une certaine distance du village, on entend un bruit de moteur. Le cavalier se retourne, dit « Merde, on est fait !» et met son cheval au galop en le lançant à droite dans un champ. Le brigadier se retourne sur sa selle et dit « C'est des Français !» L'autre revient sur la route et remet son cheval au trot. Tous, sauf le blessé, tourne la tête en arrière et regarde la camionnette les rattraper puis les dépasser. À l'intérieur sont empilés des soldats dont les casques, au lieu d'une visière, sont munis d'un bourrelet de cuir noir. Le brigadier crie « Hé, attendez-nous !» Les soldats dans la camionnette qui s'éloignent regardent les quatre cavaliers sans répondre. Le brigadier crie de nouveau « Attendez-nous ! Il y a combien de kilomètres ?» Un des soldats de la camionnette crie alors « Vous n'arriverez jamais avec vos carnes, vous l'avez dans le cul !» Haut crie « Il y a un blessé !» « Prenez le blessé !» Les soldats dans la camionnette continuent à les regarder, le visage inexpressif. Le brigadier hurle « Bande d'ordures !» La camionnette est maintenant trop loin pour qu'on puisse entendre s'ils répondent. L'un des soldats assis contre le panneau arrière se penche et fait en direction des cavaliers un geste en frappant de sa main gauche le creux de son coude droit, tandis que l'avant-bras droit, le poing fermé, remonte vivement. Le brigadier crie encore une fois « Bande de salauds !» La camionnette disparaît à un tournant. « Allez, dit le brigadier, on y va un petit peu. » Ils éprennent les chevaux. Les chevaux prennent le galop. Mais il semble qu'ils aillent encore plus lentement qu'au trot, comme s'ils basculaient sur place d'avant en arrière sans avancer. De nouveau, leur souffle se fait plus bruyant. Le cavalier dit à Haut, « Hé, viens de ce côté pour le tenir. » Haut passe à la droite du blessé et galope à côté. De son bras gauche, il essaie de le tenir sous les selles. Sans tourner la tête, le blessé dit, « Non, ça ira. » Le brigadier dit, « Tu veux qu'on se remette au trot ?» Le blessé dit non, j'aime autant comme ça. Au trot, ça se... Il ne finit pas. C'est de nouveau le silence, le bruit des sabots et le souffle exténué des chevaux. Le brigadier détache sa dragonne et enfouette la croupe de son cheval en criant « Tu vas avancer, oui, espèce de carne !» Le soleil continue à baisser. Les ombres des arbres s'allongent encore sur les prés. Galopant toujours, les chevaux continuent à lutter pour se dépasser, secouant leurs crinières pétrifiées, emportant leurs cavaliers pétrifiés. Leur couleur grisâtre ne les distingue pas de l'espace grisâtre, lui aussi pétrifié, sur lequel ils se profilent. Le soleil, la pluie, le gel, la nuit, les aubes, les jours passent tour à tour sur eux, sans que leur course se ralentisse. De temps à autre, une plaque, un morceau de peau, une joue, une saillie, une épaule, un coude, plus rarement un membre tout entier s'effrite, tombe en poussière. Toutefois, le contour des têtes, des corps et des membres reste toujours lisible. On voit leur texture interne maintenant à nu, des muscles bosselés, un os, un chanfrein, le maxillaire d'un cavalier. La coupe verticale révèle une anatomie compliquée, creusée de concavités, de sillons, de minuscules excavations, de sinus. Incolores, basculant d'avant en arrière sans avancer, ils poursuivent toujours leur course, insensibles, indifférents. Les cavaliers de profil regardant droit devant eux, les chevaux continuant à secouer furieusement leur tête au chanfrein rongé, à mouvoir infatigablement leurs pattes de marbre. Certains sont maintenant complètement plats, gris sur le gris du temps, translucides. C'est à peine si les striures, les méandres que creuse dans la pierre le vent de la course, se gonflent en passant sur eux. Bientôt, elles les traversent comme des écharpes de brouillard dont leur course obstinée dérange à peine les ondulations, comme une chevelure. Au pied des blocs tombés à terre, de l'herbe lèche maintenant les sabots, les pâturons, dont une mince saillie dessine encore les contours. Des cratères, des cavernes, des canaux, des grappes d'alvéoles enserrées dans les replis tumultueux du marbre, et maintenant, à nu, ont pris la place des reliefs que dessinaient autrefois les encolures, les flancs, les croupes. Parfois, saille encore, intact, un nez, un menton, le bourrelet circulaire d'un naseau. Couché à plat ou incliné sur le sol parmi les fûts de colonnes brisées et les fragments d'architraves, les vagues silhouettes galopantes aux entrailles de pierre semblent s'enfoncer dans les entrailles grisâtres et compliquées de la pierre, du temps, où l'écho silencieux de leur galop, l'éclat, parfois, du soleil sur les mèches d'une crinière, un hennissement, la trace minérale de leurs ombres rappelle qu'ils continuent leur course.
Dans le palace, vous avez posé une question, et moi je vais vous la poser. Qu'est-ce qui pousse un homme à raconter, ou à se raconter à lui-même, c'est-à-dire à reconstituer, à reconstruire au moyen d'équivalents verbaux, quelque chose qu'il a fait ou vu, comme s'il ne pouvait pas admettre que ce qu'il a fait ou vu n'ait pas laissé plus de traces qu'un rêve? Vous vous êtes posé cette question.
Si je pose cette question... C'est parce que j'en connais pas la réponse, vous me demandez d'y répondre. Je crois d'ailleurs que c'est le propre de l'artiste, c'est de poser des questions et pas de répondre. C'est Proust, je crois, qui a dit quelque part que pour l'écrivain, la seule réalité, c'est la réalité écrite. Et je me répète peut-être, mais j'en reviens toujours à la même chose, on ne reconstruit jamais ce qui a été. On construit quelque chose qui se fait au moment de l'écriture, au moment du discours. Le passé, c'est une sorte de magma informe dont la réalité n'est jamais récupérable. Le récit a sa propre réalité. Même Proust, à la recherche du temps perdu, ben, il n'a jamais retrouvé le temps perdu. Il a construit autre chose, n'est-ce pas? Il a produit quelque chose qui n'était pas la récupération de ce qu'il avait perdu. Et il y a... Je crois une chose assez intéressante, il y a une nouvelle de Jorge Luis Borges, vous savez l'écrivain argentin, qui s'appelle Tlon Ugbar Orbis Tertius, et dans laquelle, je crois que dans la mesure où Borges prend bien soin de brouiller les pistes et de parler toujours dans l'ambiguïté, mais ça pourrait passer cette nouvelle, je crois, pour une sorte d'art poétique. Et il y a le fameux apologue des sept pièces, c'est-à-dire pour les habitants de Tlon, qui, je crois, pour Borges, qui oppose tout le temps, comme Proust d'ailleurs aussi, le sensible, la connaissance sensible, opposée à la connaissance acquise ou la connaissance au savoir. Alors, on perd des pièces, n'est-ce pas? On dit que sept pièces ont été perdues le mercredi, puis alors cinq ont été retrouvées dans un passage, ou trois dans un passage le jeudi, deux autres un peu rouillées par la pluie le vendredi, et le restant le samedi. Bien, les habitants de Tlon, pour eux, c'est inconcevable, n'est-ce pas? On ne retrouve pas les pièces, on les trouve. Pendant le moment où elles ont été perdues, elles n'ont plus existé. N'est-ce pas? Et pour les habitants de Tlon, ce ne sont pas les mêmes pièces qu'on retrouve. On trouve des pièces. Et ils considèrent que c'est une torsion de la logique de dire qu'on retrouve des pièces.
Oui, c'est vraiment nous tordre un peu l'esprit tel qu'on nous l'a fait.
Et peut-être on nous l'a fait tordu.
C'est possible.
C'était écrivain du XXe siècle, Claude Simon, troisième volet, une émission de Francine Mallet, texte lu par Michel Bouquet, première diffusion sur France Culture le 30 août 1971. Thank you.